Élie, parole est à toi pour nous parler de ta perspective de cette nouvelle élection par rapport à la situation au Proche-Orient et de ce qu'on peut en attendre.
Bien, bonsoir à tout le monde. En écoutant l'exposé de Nicole, très complet, vraiment extrêmement intéressant, je ne pouvais pas m'empêcher d'établir le parallèle entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici, notamment le Parti républicain. Quand on regarde l'évolution du Parti républicain et du Likoud, c'est la même. C'est la même évolution. C'est-à-dire que ce que Donald Trump a réussi à faire, c'est transformer le Parti républicain en une espèce de secte dévouée à sa cause et à sa personne. Il n'y a plus de Parti républicain au sens classique du terme. Et c'est ce qu'a fait Netanyahou avec le Likoud. Le Likoud est devenu la garde rapprochée, la chose de Netanyahou. Lorsqu'un grand parti de gouvernement devient ça, son avenir est compromis tout de même. Il y a une chance, il y a une possibilité que ça se défasse une fois que Trump ne sera plus au pouvoir. Parce que tout de même, Trump à la Maison-Blanche et Trump dehors de la Maison-Blanche n'est plus du tout le même Trump. Et alors, il y aura les affaires judiciaires, y compris d'ailleurs des affaires d'ordre sexuel, ça, et qui risquent de lui faire beaucoup, beaucoup de mal. Il y aura une espèce d'acharnement contre lui maintenant. Et nul ne peut savoir comment ces choses-là vont se terminer. Alors ici, la défaite de Trump a été un coup terrible pour Bibi et pour le Likoud. Ils essaient de faire contre une mauvaise fortune bon cœur. Lui, Netanyahou, se prévaut d'une longue amitié avec Biden, ce qui est vrai. Mais ça a été pour lui quelque chose d'extrêmement douloureux. Nicole évoquait les cadeaux que Trump a fait à Israël. En fait, Trump a fait des cadeaux au Likoud. Il a fait des cadeaux à la droite. Rien de ce qu'il nous a donné, sauf la facilitation des accords de normalisation avec les pays du Golfe. Tout le reste, c'est du pipeau, si vous me passez l'expression. Tout est du symbolique. Et le véritable saccage, là où il nous a vraiment affaiblis, c'est en défaisant en quelque sorte le système international démocratique qui est pour Israël le meilleur soutien. Et c'est un pays qui se retire des affaires du monde et qui laisse derrière lui un champ de ruines, qui démolit ses alliances les plus solides, c'est-à-dire les historiques avec l'Europe, mais pas seulement avec l'Europe, avec les Kurdes. C'est un pays où Israël est perdant à tous les coups. Maintenant, il va falloir réapprendre à se positionner dans un monde qui est le monde d'après Trump. Et ce ne sera pas une affaire facile. Quelles sont les perspectives pour le Proche-Orient avec cette Amérique post-Trump? Il y a les camps de perdants. Ils sont nombreux. C'est-à-dire, au Proche-Orient, il y a Erdogan. Erdogan est quelqu'un qui va pleurer, Trump. Bien sûr, les relations entre les États-Unis et la Turquie n'étaient pas bonnes, mais les relations entre Trump et Erdogan, personnelles, étaient excellentes, pour la bonne raison que ce sont tous les deux des autocrates. Et donc, il y a déjà, on va voir l'évolution des relations entre les États-Unis et la Turquie. Et là, je prévois des moments difficiles pour Erdogan. Pour l'Arabie saoudite, c'est un coup très dur aussi. Biden a eu des mots très durs pour le prince héritier, pour MBS, alors que Trump a tout fait pour le protéger. Donc là, il va y avoir une espèce de réalignement dont on peut percevoir maintenant les premiers signes. Pour tout ce qui concerne l'engagement de l'Arabie saoudite au Yémen, pour ce qui concerne les non-problèmes des droits de l'homme à l'intérieur même de l'Arabie saoudite, il y aura des développements qui seront extrêmement intéressants. Il y a évidemment les Palestiniens. Eux sont les seuls qui peuvent se réjouir du changement d'équipe à Washington. Trump a été, pour eux, une espèce de fleur de Dieu, si je puis dire. Trump leur a coupé les vivres, il a supprimé la représentation palestinienne à Washington, il a supprimé le consulat américain à Jérusalem qui servait d'ambassade auprès des Palestiniens. Tout cela va être rétabli. Ça, c'est facile à faire, ça sera fait très rapidement. Alors, je suis d'accord que avec l'idée que le Proche-Orient, et notamment le processus de paix, ou ce qu'il en reste, ne sera pas la préoccupation première de l'administration américaine, évidemment. Mais il y aura des choses qu'il fera tout de suite, rétablir une certaine présence américaine auprès des Palestiniens. Ça, il le fera très rapidement. Et ce qu'on sentira aussi, probablement, c'est une impatience croissante vis-à-vis de la colonisation. Je ne sais pas si vous avez certainement suivi l'appel d'offres pour Har-Homa, c'est-à-dire cette colonie du sud de Jérusalem qui a toujours été une pomme de discorde entre Israël, la communauté internationale et notamment les Américains, puisque la déconstruction là-bas signifierait tout simplement l'impossibilité totale de diviser Jérusalem. Et aussi de créer éventuellement un État palestinien contigu. Donc ça, il se dépêche vite, vite. L'appel d'offres va se terminer 2 jours avant l'inauguration, de manière à mettre la nouvelle administration devant le fait accompli. Et là, on peut s'attendre à des mouvements d'humeur graves de la part de l'administration américaine nouvelle. Elle n'aimera pas ça. Je vous rappelle qu'en 2000, déjà, je crois, oui, c'est en 2000, lors d'une visite de Biden, à ce moment-là vice-président à Jérusalem, c'est le moment qu'on a choisi pour annoncer un plan massif de construction dans les territoires. Il y a eu là un moment d'embarras diplomatique terrible. Ça, Biden, je suppose, il s'en souvient.
2010, Elie.
Sous la présidence Obama. Et donc, ce que je suis incapable de prévoir, c'est la manière dont ils imaginent une espèce de reprise du processus de paix. Mais ce que je vois dans l'immédiat, c'est un réalignement de la carte proche-orientale selon une configuration plus classique américaine et mondiale. Il faudra oublier les cadeaux, les implantations redeviendront illégales au regard de la loi internationale et les Américains seront d'accord avec cela. Il faut s'attendre à des tiraillements. Et déjà, ça a commencé. Je sais pas, à propos non pas d'implantation, mais à propos de l'Iran, vous avez vu peut-être que hier ou avant-hier, Netanyahou s'est empressé de mettre en garde le président élu contre la réadoption de l'administration américaine du traité nucléaire avec l'Iran. Déjà, ça commence. C'est-à-dire que là, pour prévenir n'importe quelle tentative américaine de réengager un processus avec l'Iran. Bon, est-ce qu'il recommencera, est-ce qu'il ira de nouveau à Washington au Congrès pour faire pièce à la politique du président? Cela m'étonnerait. Mais en tout cas, il y aura là des sujets de discorde graves. Ce que je ne sais pas, c'est comment les Américains, comment la nouvelle administration imagine cette reprise du dialogue avec l'Iran. Ce ne sera pas facile. D'autant plus que Trump, l'administration Trump, s'est évertué à semer des mines sur son chemin. À la fois en politique intérieure mais aussi en politique étrangère, jusqu'au dernier moment, il est encore en train de le faire en ce moment même. C'est-à-dire qu'il s'efforce de préempter n'importe quelle tentative de revenir sur la politique étrangère de l'administration Trump. Et donc ça, comment il va s'y prendre, ça, je suis incapable de le savoir. Et étant donné qu'il m'appartient ici de faire de la prospective, j'ai beaucoup de mal parce que tout ça n'est pas clair du tout. Beaucoup dépend évidemment de ce qui va se passer début janvier en Géorgie. Si là le Sénat Si Biden a le Sénat, ce sera différent. S'il ne l'a pas, ça va être extrêmement compliqué, y compris pour les nominations. Et donc, c'est très difficile de faire des pronostics sur ce qui va se passer. Alors, ce que je perçois ici, c'est une énorme inquiétude pour la gauche, enfin pour l'opposition, un immense soulagement aussi, ne serait-ce que par simple satisfaction morale, esthétique en quelque sorte, voir Friedman vider les lieux, l'ambassadeur des États-Unis ici, ce serait une satisfaction dont il ne faudra pas se priver, c'est déjà pas mal. De là avoir une Amérique déterminée, prête à réengager la région dans un véritable processus de paix, il est loin de la coupe aux lèvres. Et je pense que Biden lui-même, qui a été brûlé, échaudé dans les tentatives de l'administration Obama pour faire la paix ici, je ne sais pas en quelle mesure il va vraiment s'y investir. J'espère aussi, mais c'est très difficile à juger ces choses-là, j'espère qu'il y aura une certaine influence de la disparition de Trump de la scène politique sur l'état de la démocratie israélienne. Pour une bonne part, l'assurance de Benjamin Netanyahu, la manière dont il a saccagé lui-même, comme Trump, les institutions de la démocratie israélienne, le mépris qu'il a manifesté à l'égard de l'opposition, de la minorité arabe, de la justice, tout cela a pu se faire en impunité parce qu'il avait l'appui sans faille de la présidence américaine. C'est extrêmement important ici, c'est assez difficile à apprécier de l'étranger, mais la possibilité pour un premier ministre israélien de dire « j'ai avec moi l'Amérique, c'est moi qui sais comment faire avec eux et j'ai à la Maison Blanche un ami indéfectible. D'ailleurs, je ne fais rien de différent de ce qu'il fait. » Tout ça a un poids politique et moral considérable. Quand ce ne sera plus le cas, ça va être beaucoup plus compliqué. Et là, il va falloir suivre au jour le jour la politique israélienne, non seulement la politique étrangère d'Israël, mais la politique intérieure, pour voir quel sera l'impact de ce changement d'équipe à Washington. Je suis par exemple convaincu qu'il aura beaucoup plus de mal à provoquer des élections anticipées, Netanyahu, maintenant qu'il n'a pas Trump. Ça va être beaucoup plus compliqué. Il le fera probablement, mais ce sera plus difficile pour lui. L'un de ses arguments électoraux, son premier argument électoral, c'était « j'ai avec moi Trump ». Partout dans le pays, il y avait d'immenses affiches électorales, on le voyait lui et Trump ensemble, avec la légende. Il est d'une autre ligue, c'est-à-dire que personne ne peut se comparer avec lui. Regardez ce qu'il est capable de faire. Regardez quel est son ami à la Maison-Blanche. Ça va être terminé. Et ce serait intéressant de voir quel impact cela aura effectivement sur la scène israélienne et aussi sur la manière dont la gauche, ou ce qu'il en reste, le centre-gauche, l'opposition, prendra appui sur ce changement d'équipe pour redresser un peu l'échine. Parce que je ne vous cache pas que nous sommes dans l'ensemble assez abattus.
D'abord, enfin, une question à toi, Élie. Les accords quand même signés avec les Émirats, avec le Bahreïn, le Soudan à venir, le voyage de Netanyahou, dont on parle dans la presse depuis 48 heures en Arabie Saoudite, tout ça, ça met en place une nouvelle réalité. En quelle mesure cette nouvelle réalité régionale va influencer ou peut influencer une politique vis-à-vis de l'Iran de Biden?
Alors ça, c'est donné, ça, on ne reviendra plus là-dessus. Et je pense que dans l'ensemble, il faut s'en féliciter. S'il y a quelque chose que je reconnais, quelque chose de positif que je reconnais à Trump, c'est d'avoir facilité ça. Et ça, c'est important. Je sais qu'il y a à gauche, il y a des esprits chagrins qui disent « mais on a laissé de côté les Palestiniens, c'est une mauvaise affaire, toute cette paix n'est pas une véritable paix ». C'est tout qu'on fait un mauvais coup contre la paix, contre la possibilité d'une paix avec les Palestiniens. Moi, je ne suis pas de ce parti-là. Je crois que tout avancer avec un pays arabe est bon à prendre. C'est une bonne chose. Ça ouvre des perspectives, y compris d'ailleurs sur le plan palestinien. Et donc, je crois que ça, cet ensemble de processus de normalisation, il est là pour rester. Biden ne viendra pas là-dessus, évidemment. Et je pense que c'est un cercle qui peut encore s'élargir. Évidemment, pour tous ces autocrates, puisque pour l'instant nous n'avons affaire qu'à des autocrates, pour eux, Trump était un allié intéressant, et la normalisation avec Israël était censée leur ouvrir les portes de la Maison Blanche. C'est pour ça qu'ils faisaient ça. Et les arsenaux de la Maison Blanche. Est-ce que Biden fera de même? C'est difficile à savoir. J'ai déjà dit que pour l'Arabie Saoudite, par exemple, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais je pense que c'est là, il y a un élan qui ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire que là, quel que soit l'occupant de la Maison Blanche, on peut imaginer que le cercle de la reconnaissance d'Israël va s'élargir. Et encore une fois, je pense que c'est positif. Ce que Biden pourrait faire, c'est non pas conditionner les accords d'Israël avec les pays arabes par la reconnaissance du problème palestinien, mais c'est de réintroduire par ce biais la question palestinienne. Ça, c'est une possibilité, et s'il le fait, ce sera excellent. Et je pense que ces pays arabes seront contents d'entrer dans ce jeu. Que fera Israël dans ce cas-là? C'est une autre affaire.
Il semble que les Palestiniens l'ont anticipé puisqu'ils ont repris depuis quelques jours la coopération militaire avec les Israéliens. Ils ont accepté aussi que leur soient versés les impôts que Israël a retenus, enfin la TVA que Israël a retenue. Ça montre bien une nouvelle approche de l'autorité palestinienne vis-à-vis d'Israël depuis l'élection de Biden.
Disons qu'ils se sont servis de cette élection pour descendre d'un arbre où ils se sont perchés de manière très imprudente. Ils avaient besoin de faire ça. La coopération sécuritaire n'est pas bonne pour Israël, elle est bonne pour eux aussi. C'est un intérêt palestinien important. Et de la même manière, ils sont étranglés financièrement, ils avaient besoin de cet argent. Et donc, ils se sont servis de ce prétexte pour reprendre cet argent qui est la leur, de toute façon, et pour reprendre la coopération sécuritaire. Alors, ils pensent que par ce biais, ils pourront aussi recommencer une sorte de processus de paix, recommencer une négociation avec Israël. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, c'est dans l'ordre des choses. Ils l'auraient fait à la longue de toute façon, ils ne pouvaient pas faire autrement. Est-ce que l'élection de Biden permettra aussi, par cette espèce de début de détente, à réamorcer un processus de paix? Ça reste à voir. De toute façon, pour l'instant, à mon avis, ils n'ont pas de partenaire.
Alors, on me dit qu'effectivement, cet accord de paix avec les Émirats resteront apportés au crédit de Netanyahou en cas d'élection. C'est sûr que ça ne pourra que le renforcer si dans 4 mois on retourne aux urnes en Israël.
Oui, enfin, ce sera évidemment un argument de campagne, mais je ne pense pas que je regarde les sondages ici, les Israéliens ne sont pas vraiment très sensibles à ça. Paradoxalement, ils sont contents, mais c'est venu de telle manière et avec un tel prix, puisqu'il nous a présenté cela comme des accords gratuits, la paix contre la paix, il a dit. Et il s'avère que ce n'est pas du tout le cas. Il a fallu accepter la vente de matériel sophistiqué, matériel militaire sophistiqué aux Émirats. Il a fallu quand même avaler quelques couleuvres. Et donc, je ne pense pas que ce soit un argument électoral, mais je ne pense pas que ce soit un argument électoral très important. Mais est-ce qu'il en a même besoin? Tu veux, électoralement, Netanyahou baisse beaucoup dans les sondages. Sa gestion de la crise du Covid a été catastrophique, les Israéliens le savent. Il n'est pas populaire, il perd beaucoup de voix, mais les mandats qu'il perd dans les sondages pour l'instant vont non pas au centre-gauche, mais vont à l'extrême droite. Ils vont chez Bennett. Et donc, pour l'instant, d'après les sondages toujours, le bloc des droites, qui, s'il y avait des élections demain, resterait tel qu'il est et il se renforcerait même. Et le véritable problème, c'est l'avantage de la démocratie américaine sur l'israélienne. Sur beaucoup de plans, la démocratie israélienne prouve qu'elle se porte mieux que la démocratie américaine, aussi paradoxal que cela paraisse. Elle est moins dysfonctionnelle. Et sauf sur un plan, eux, ils avaient une opposition. Cette opposition a pu arriver au pouvoir. Ici, on est loin du compte.
Okay. Nicole, est-ce que tu veux intervenir?
En fait, j'aurais bien posé une question à Élie. Je voudrais bien entendre ton point de vue, enfin, quel bilan tu fais de la politique de Trump à l'égard de l'Iran? Cette sortie de l'accord nucléaire, ces sanctions renforcées et le fait que pendant ce temps-là, l'Iran a repris l'enrichissement de l'uranium. Tu disais à quel point il te semblait difficile, au fond, de réactiver cet accord. Tu dirais qu'on en est où aujourd'hui, réellement, après 4 ans de Trump?
Mais tu l'as dit très bien toi-même, c'est-à-dire qu'on en est aujourd'hui à un point où finalement la sortie de Trump du nucléaire s'est avérée catastrophique. On pouvait y penser déjà à ce moment-là. En fait, quelle est la situation aujourd'hui? C'est que les Iraniens ont repris l'enrichissement de l'uranium et ils sont plus près que jamais de la capacité à produire des bombes atomiques. L'avantage de cet accord iranien avec les Iraniens, de cet accord nucléaire avec les Iraniens, qui n'était pas un très bon accord, mais c'était ce qu'on pouvait obtenir de mieux à ce moment-là. Ça nous donnait 10 ou 15 ans d'assurance que l'Iran ne se dotera pas du feu nucléaire. Et pendant ces 10 ou 15 ans, beaucoup de choses pouvaient se passer. En sortant du nucléaire, on a légitimé, en quelque sorte, une certaine sortie du nucléaire de l'Iran lui-même. Et il y a eu les sanctions, des sanctions très dures, mais qui n'ont pas eu l'effet escompté. C'est-à-dire, ça n'a pas fait bouger le régime iranien. Ça a permis à ce régime même de se renforcer. Et donc, c'est que Biden devrait faire, ce qu'il pourrait essayer de faire, non pas de revenir à l'accord tel qu'il existait avant, ça c'est pas possible, mais essayer de le compléter d'une certaine manière. Et ce qui reste à voir, si les Iraniens seront prêts à cela. Parce que reprendre la négociation avec les Iraniens sur la base de l'accord passé, mais en l'améliorant du point de vue de l'Occident, ça va être quelque chose que les électorats auront beaucoup de mal à accepter. Et donc, nous sommes un peu dans une impasse et je ne vois pas très bien comment en sortir. Peut-être par le biais des Européens, Biden retrouvera des relations normales avec l'Europe et peut-être que par ce biais-là, on arrivera ensemble à faire pression sur les Iraniens de manière à rouvrir cet accord, à l'améliorer si possible. Je donne à cela peu de chance, mais c'est la seule possibilité que je vois. C'est-à-dire une espèce de front commun. C'est là tout le problème de Trump, si vous voulez. Quand on fait cavalier seul, on arrive à ça. On arrive à rendre l'ennemi plus audacieux au lieu de faire front. C'est vrai pour l'Iran comme c'est vrai pour la Chine, au lieu de faire front un front démocratique occidental, on divise. Et je note que Biden a comme l'un de ses premiers projets en politique étrangère de réunir un forum d'États démocratiques. On va voir ce qu'il pourra faire avec ça. C'est le seul moyen d'arriver à quelque chose.
Oui, mais Élie, paradoxalement, la politique de Trump a permis peut-être à l'Europe de commencer à exister politiquement. Entre d'une part le Brexit, entre part Trump, est-ce que ça va s'arrêter ou est-ce que, comment tu vois ça?
Non, oui. Ça, c'est le seul point positif global de la présidence de Trump, c'est celui-là. C'est d'avoir permis à l'Europe, ça a poussé à l'Europe à exister tant, un peu sur la scène internationale, à s'unir mieux. Mais bon, c'est une façon de se féliciter de Trump. C'est un peu comme si tu disais, heureusement que Hitler a existé, ça a permis l'émergence de la puissance américaine et l'Europe unie, ce qui est vrai. Mais le prix à payer a été terrible. C'est un succès de Trump par défaut, si tu veux, involontaire. Mais il est réel. C'est vrai que le seul bénéfice que je vois, c'est celui-là. C'est le fait d'avoir permis à l'Europe de s'organiser davantage. Quand on a entendu Merkel dire qu'on est seul maintenant, il faut s'habituer à être seul, à s'organiser en fonction de cela, ce n'est pas rien. Et je me demande si l'Europe aurait réussi à se doter de cet énorme plan de relance et donc à accéder grâce à cela à une espèce de statut fédéral presque. Avec cette chose extraordinaire qui est la mutualisation des dettes dont les Allemands ne voulaient pas entendre parler, si Trump n'avait pas été là. Trump a été un catalyseur, effectivement. Alors, de ce point de vue-là, c'est vrai. Il vous aura été utile de la même manière qu'il nous aura été utile pour effectuer notre percée dans le Golfe.
Alors, sur l'Iran, on pose beaucoup de questions. Élie d'abord, peut-être qu'il pourra suivre. Comment faire confiance à l'Iran des ayatollahs, quoi? Parce qu'on voit les attentats qui existent ces dernières semaines en Europe, ils sont fomentés, il y a des procès en cours qui le prouvent par les Iraniens. Donc imaginez de reprendre une négociation avec eux, est-ce que c'est plausible avec ce régime, quand on sait en plus que dans quelques mois il y a des élections là-bas et que les conservateurs risquent de les remporter?
À cela, j'ai deux réponses. D'abord, il ne faut pas faire confiance aux Iraniens, évidemment. Les relations internationales ne sont pas forcément une affaire de confiance. Il faut aboutir avec eux à un accord de telle manière à ce qu'ils ne soient pas et armer cet accord de telle façon à ce qu'ils ne soient pas, qu'ils n'aient pas intérêt à ne pas le respecter. Ce n'est pas une question de confiance, c'est une question de réel politique. Et puis, il faut se demander quelle est l'alternative. Si on ne veut pas aboutir à un accord avec les Iraniens, il faut savoir que l'alternative est la guerre. Et il faut se demander à ce moment-là si on a intérêt à faire la guerre. Moi, je ne suis pas pacifiste, je ne suis pas hostile à la guerre par principe. Je n'aime pas la guerre, mais je pense que parfois elle est nécessaire. Mais il faut savoir que une guerre contre l'Iran aurait un coût épouvantable. Donc, tant que l'on peut éviter cela, par des accords aussi imparfaits soient-ils, mais qui permettent quand même un contrôle, disons, satisfaisant, je pense qu'il faut choisir ce thème-là. C'est pour ça que j'étais partisan de l'accord iranien de 2015, bien que j'ai vu, évidemment, comme tout le monde, ses faiblesses. En passant soit dit, c'est grâce à la France que cet accord a été moins mauvais qu'il aurait pu l'être, puisqu'Obama était prêt à signer un accord encore moins bon que celui qui a été finalement signé. Et donc, voilà l'alternative. L'alternative, c'est soit un accord pas bon, mais acceptable, vivable, ou la guerre. Et c'est à partir de cette alternative sinistre qu'il faut se positionner.
Je rappelle d'ailleurs qu'à l'époque de cet accord, la majorité de l'establishment militaire israélien l'avait soutenu.
Absolument. De la même manière que l'establishment sécuritaire israélien refusait de faire la guerre, que Netanyahu était prêt à faire. Netanyahu, qui d'ailleurs, je m'empresse de dire, n'est pas un va-t-en-guerre d'habitude. Mais là, il est tellement obsédé par l'Iran qu'il était prêt, il avait préparé une opération militaire contre les Iraniens. Et c'est l'établissement militaire unanime, armée, Mossad, Shin Bet, tout le monde qui se soulevait comme un seul homme. Eux étaient conscients du prix que cela allait avoir, pas seulement compris en vie humaine, puisque les Iraniens n'ont pas de capacité militaire à résister à un assaut occidental, américain, israélien, ils ne le peuvent pas. En revanche, ils ont des capacités de riposte asymétrique qui sont considérables. Et donc, il y avait un prix en vie humaine et puis il y avait un prix politique, puisque une guerre contre les ayatollahs resserrait la population iranienne autour des ayatollahs, donnerait un nouveau souffle au régime, alors que le régime est, comme on le sait, extrêmement impopulaire.
Alors, dernière question pour toi, Elie. Les difficultés que va rencontrer sur le plan fédéral Biden, s'il n'a pas le Sénat avec lui, évidemment, est-ce que ça ne va pas affaiblir sa politique étrangère, qui est déjà affaiblie par la politique menée par Trump au Moyen-Orient vis-à-vis de l'Iran? Et que pourra faire Israël dans ce cas-là face à un Iran éventuellement renforcé? Ça, je sais pas
si c'est... Toute politique étrangère, ça, on le sait depuis l'école historique, l'école française des relations internationales, toute politique étrangère est de la politique intérieure. Évidemment, plus il sera à l'aise en politique intérieure, plus il pourra faire des choses en politique étrangère. C'est tout ce qu'on peut dire. Tant qu'on ne sait pas quelle sera la configuration, moi je suis plutôt optimiste dans ce sens où je ne crois pas que l'impact de Trump, l'influence de Trump après les élections, d'un Trump tout de même battu, qui n'est plus au cœur du débat américain, qui aura perdu son arme favorite qui est Twitter, je ne pense pas qu'il aura autant de capacité de nuisance que ce que l'on dit, que finalement Biden sera un président, un réel président. Il pourra gouverner. Maintenant, quelle marge de manœuvre il aura, c'est impossible à prévoir. Il faut attendre.
Nicole, justement, une question pour toi. Jean-Pierre Filliot a écrit un article aujourd'hui. Les questions, c'est uniquement par SMS. Vous me les envoyez par la fonction de converser en bas et je les pose moi. Voilà. Alors, Jean-Pierre Filliot a écrit aujourd'hui dans Le Monde, dans son blog, un article sur Biden et rappelle qu'il s'était trompé pendant la guerre en Irak. Il avait préconisé d'abord il avait soutenu Bush dans ce choix de s'engager. Il avait ensuite soutenu une solution de partition de l'Irak en État chiite, État kurde, État sunnite. Enfin, il avait soutenu Maliki quand Maliki avait été Premier ministre, a été nommé en Irak avec les conséquences que l'on sait avec la montée de Daesh. Enfin bon, il y a un certain nombre d'éléments, qui, en tout cas dans le passé, qui prouvent qu'il y a eu aussi certaines erreurs dans ces choix-là. Alors, qu'en penses-tu?
Oui, c'est vrai. Non, tout ça est vrai. Et j'ai envie de dire, les erreurs du passé ne garantissent pas les erreurs du futur. Je ne vois pas bien qui a su ce qu'il fallait faire avec l'Irak une fois que la guerre a eu lieu. Et la proposition de Biden, qui était d'ailleurs aussi celle d'Anthony Blinken, donc nouveau secrétaire d'État, de partition de l'Irak, a été refusée. Joe Biden avait voté l'autorisation du recours à la force en 2002, qui n'était pas totalement l'autorisation d'entrer en guerre, mais bon, ces subtilités, elles se sont perdues dans le, dans le déroulement de l'histoire. Il a laissé comme bilan celui plutôt d'un homme qui n'aime pas l'intervention militaire, qui recule à cet égard. Il était contre l'intervention en Syrie, il était contre l'intervention en Libye. Il pensait qu'il était évidemment pour l'élimination d'Oussama Ben Laden, mais au moment où la décision a été prise, il pensait que la décision était trop risquée, que ce n'était pas le moment de le faire. Donc ce qu'on peut en retirer, c'est que c'est quelqu'un qui ne fonce pas vers l'intervention militaire sans, avec véhémence et enthousiasme. Certainement pas. Moi, je trouve ça plutôt rassurant, mais je rejoins tout à fait Élie qui disait je n'aime pas la guerre, mais je ne suis pas pacifiste. Je pense que Biden, quand même, partage ce point de vue-là. Maintenant, je ne sais pas comment mesurer sa clairvoyance future sur toutes les questions extrêmement complexes du Moyen-Orient. Mais si je pense aux administrations passées, je vois bien que la clé n'a jamais été complètement dans la main des Américains et que leur capacité de comprendre cette région du monde n'a jamais été éblouissante. Je reviens juste un instant à tout ce que Élie a dit de très juste sur la question iranienne. C'est qu'au fond, il me semble que le bilan des années Trump, côté iranien, pourrait être de dire que bon, mais si on veut se faire respecter, il faut avoir la bombe, vu l'attitude de Trump à l'égard de la Corée du Nord. Et ça, je trouve que c'est absolument dévastateur et ça n'a pas été perdu dans le regard des dirigeants de Téhéran. Et de même que la notion très claire que ce qu'un président américain fait, ce à quoi il s'engage, peut être défait par le suivant. Et ça, je crois que c'est une grande fragilité pour toute négociation à l'avenir. Mais là, je ne fais que répéter ce qu'a dit Élie. Le but, c'est un mauvais accord, pas trop mauvais après, avec lequel on puisse vivre, ou alors la guerre avec une guerre au fond impossible à gagner de bien des manières.
Voilà, puis dernière question, Élie, et on termine.
Je voudrais juste.
Pardon, vas-y.
Pour suivre ce que Nicole vient de dire, on a l'impression, deux impressions. L'une, c'est qu'il n'y a pas de véritable continuité de l'État. Ça, c'est effarant. Et qu'on ne sait pas, on ne sait pas sur quel pied danser. Une administration fait quelque chose, Obama fait quelque chose. Tout ce que Trump a fait, c'est de défaire ce qu'Obama a fait. Et maintenant, Biden va être obligé de défaire ce que Trump a fait, essayer du moins. Et une grande puissance ne peut pas agir de cette manière-là, parce qu'elle crée de l'incertitude et elle crée de l'incertitude surtout chez ses alliés, et c'est dramatique. Et l'autre impression, qui n'est pas une impression, qui est une certitude, c'est que le siècle américain est terminé, c'est-à-dire que l'époque où les États-Unis étaient impliqués massivement, puissamment dans les affaires du monde, est terminée. C'est-à-dire il va falloir s'habituer dans une séquence longue américaine entre cette espèce de vaste hésitation ou plutôt de succession de phases d'engagement et d'isolationnisme. On est entré, je pense, quelle que soit l'administration, quelle que soit la couronne de l'administration, on est entré dans une phase de longue d'isolationnisme américain. Il faudra s'habituer à cela, il faudra que l'Europe y réfléchisse, parce que l'Amérique ne sera plus là pour tirer les ballons du feu aux Européens. Et il faudra qu'au Proche-Orient, on s'habitue à cela. Et donc, quel que soit, évidemment, Biden n'est pas Trump, hein, il ne va pas déchirer les traités, il va pas sortir de l'OTAN, mais il ne sera pas non plus un président extrêmement interventionniste. Il n'aime pas ça. Et je pense que l'Amérique est dans une phase d'introspection, de règlement de ses problèmes internes pour longtemps.
Ok. Alors, deux questions, et là je clôt parce que je vois que les mails m'arrivent encore. Une pour toi, Nicole. Tu l'as abordé tout à l'heure précédemment quand tu as parlé un peu de la presse américaine. Il y a eu un article récemment dans Le Monde où une journaliste, Barry Weiss, qui explique qu'elle a quitté le New York Times à cause des positions qui sont défendues de plus en plus dans la presse américaine. Tu as abordé cette question vis-à-vis d'Israël, très anti, de plus en plus critique, on va dire comme cela, mais pas seulement cela, sur les positions, on va dire, d'une gauche un peu... qui ne comprend pas du tout la problématique que nous avons, nous, en Europe, par rapport aux questions d'immigration, etc., qu'il aborde en comparant la situation américaine. Alors, cette question-là sur cela. Et puis, Elie, l'impact sur la gauche israélienne de l'élection de Biden, quand même. La gauche et le centre-gauche. Et on terminera là-dessus. Alors, Nicole, c'est tout.
Oui, moi, je vais être brève là-dessus. Il y a une incompréhension totale entre la gauche américaine telle qu'elle est représentée dans la presse, mais aussi à travers les universités américaines, qui sont quand même aussi un lieu où ces débats se développent, vis-à-vis de la situation en France et de la question du terrorisme et de l'islam, de la laïcité, etc. Il n'y a pas de dialogue possible. C'est un dialogue que j'ai essayé d'engager avec des universitaires et des responsables américains depuis longtemps. C'est impossible. À partir du moment où on commence à expliquer comment ça se passe en France, comment on voit les choses, même sans aucune passion, parce que le sujet n'est jamais simple, le rideau tombe, vous êtes qualifié de raciste et de xénophobe. Voilà, c'est aussi brutal et simple que ça. Et le Washington Post, le New York Times, qui sont des journaux que je lis depuis que je suis adolescente, sont sur des pentes très dangereuses. Les pentes de refus du débat au nom de vos origines ethniques ou religieuses, c'est tout. Vous n'avez pas droit au chapitre si vous êtes, aux yeux de cette culture-là, représentant d'une catégorie blanche, masculine. C'est encore pire, mais bon, les femmes ne sont guère loin derrière. C'est un vrai problème. Je ne peux pas dire que ça n'existe pas, mais je peux encore moins dire qu'on en voit la fin. C'est quelque chose qui est en train de se développer et de prendre de l'ampleur. Et dans les universités américaines, vous avez toutes ces situations où le débat est refusé parce qu'il heurte la sensibilité. À partir du moment où on heurte aucune sensibilité, à mon sens, il n'y a aucun débat. Et la question de la liberté d'expression, qui est évidemment pour les points de vue que l'on trouve déplaisants, parce que sinon, pourquoi diable faudrait-il protéger cette liberté d'expression ? Tout cela est totalement incompris aux États-Unis par rapport à la vision que l'on peut en avoir, notamment en France, qui n'est pas la vision européenne en général. Et bizarrement, on retombe dans une intolérance puritaine à l'égard des bonnes et des mauvaises opinions. Et tu as remarqué, David, et je suis sûre que tu n'es pas le seul, que les attitudes à l'égard d'Israël sont extrêmement, extrêmement liées à ça. L'hostilité à l'universalisme issu des Lumières, aux États-Unis, pays quand même de la liberté d'expression, du premier amendement et des Lumières, c'est quand même quelque chose de renversant et de très dangereux.
Oui, c'est la cancel culture.
Exactement.
Est-ce que tu ne vois pas un certain retour de bâton? Je sais pas, il me semble qu'il y a un débat aujourd'hui qui n'est pas récent, qui tourne autour de Marc Lilla et d'autres gens comme ça, qui disent maintenant ça suffit, on ne peut pas continuer comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un frémissement, enfin, tu connais finalement mieux que moi, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un commencement de la fin de cette affaire-là?
Je l'espère en tout cas qu'il y ait un frémissement en ce sens. On a peut-être, je ne sais pas si tu as vu, Elie, mais ici en France, on a vu dans Le Monde ce groupe d'écrivains afro-américains qui vivent en Europe, et qui donc comprend les deux, et qui était infiniment plus nuancé sur tout cela. Donc oui, j'espère qu'il y a des réactions, parce que c'est vraiment extrême. Il y a plein de gens qui perdent leur poste, qui sont traînés dans la boue, non pas parce qu'ils ont fait ou dit même quelque chose d'horrible, mais juste parce qu'ils ont manqué de sensibilité, qu'ils n'ont pas utilisé le bon vocabulaire. Joe Biden lui-même, pendant une des rencontres, enfin rencontre virtuelle d'ailleurs, avec des électeurs, avait affirmé son hostilité à toute discrimination envers les transgenres en parlant d'un jeune homme qui était devenu une femme et qu'il avait rencontré et qui lui avait montré un peu de quoi étaient faits ces vies-là. Et le New York Times, rapportant cela, a jugé bon de critiquer Biden pour son manque de sensibilité. Parce que dire un jeune homme qui est devenu une femme, ce n'est pas correct. On doit dire une femme transgenre. La toute autre circonvolution autour de cela, et étant donné la génération dont est Joe Biden, il n'y a rien de déshonorant dedans, il n'avait pas adopté le bon vocabulaire. Donc j'espère bien quand même que ça va tellement loin que ça va un peu se réveiller dans l'autre sens. Mais malheureusement, je pense que l'élection de Donald Trump en 2016 et quand même son score impressionnant en 2020, c'est aussi une réaction à ça. Parmi les ouvriers blancs, qu'on vienne leur parler de « il ne faut pas dire un jeune homme qui est devenu une femme, il faut dire transgenre », c'est très 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 loin de leur problème et ça les exaspère, ça les éloigne du Parti démocrate. Donc il y a plusieurs manières, disons, d'avoir un boomerang ou une réaction à ces excès. Mais c'est, oui, j'espère quand même que ce que tu notes, toi, et que ce sont plus positifs, se prendront de la place, oui.
Ok, merci Nicole. Et donc, Élie, sur la gauche, ou le centre-gauche?
Écoute, ma réponse sera brève, je n'en sais rien. Je sais qu'il y a eu un immense soulagement, ça oui, on est très heureux que ce phénomène bizarre qu'on appelle Trump, il a perdu les élections. Mais qu'est-ce que la présence de Biden va faire pour nous, ça on ne le sait pas. Puisque, si tu veux, dans le centre-gauche, il y a un problème qui domine tous les autres, c'est le problème palestinien, c'est l'occupation. Et la manière dont il va s'occuper de ça, on n'en sait rien. C'est que l'on sait en revanche. Le côté positif, c'est que on aura accès à la Maison Blanche, on aura accès au centre de pouvoir, les ONG auront accès à des sources de financement, ce sera plus facile, l'atmosphère sera plus respirable. Et quelle sera l'influence réelle, le résultat de ça, difficile à dire. Mais, toi et moi, nous le savons, nous commençons déjà à prendre des contacts puisque l'atmosphère à Washington a changé. Et donc, par contre-coup, à Tel Aviv aussi. Je ne dis pas Jérusalem, je dis à Tel Aviv.
Ok, bon, bah, écoute, merci Élie, merci Nicole. Beaucoup de questions restent encore en suspens. L'avenir nous dira dans quel sens le vent d'histoire va continuer à souffler. Et en tout cas, à tous ceux qui sont restés, nous étions près de 300 personnes à nous être connectés au cours de la soirée. Nous organiserons dans 3 semaines aussi une prochaine conférence. Vous recevrez par mail les indications. Pour l'instant, en tout cas, nous sommes en train de bâtir la soirée. Merci donc encore une fois, Nicole et Élie, et à bientôt.
Merci.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Merci.